Les œuvres de miséricorde, une émission proposée par l'abbé Philippe Beitia, prêtre du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.
Bonjour chers auditeurs, nous poursuivons notre réflexion sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle auxquelles nous invite le pape François. La seconde œuvre de miséricorde corporelle, c'est donner à boire à ceux qui ont soif. La soif exprime un besoin vital. Lors de sa traversée du désert, le peuple d'Israël a fait à diverses reprises l'expérience de la soif. Et à son peuple, Dieu a donné de l'eau pour le maintenir en vie et pour lui permettre de poursuivre sa route vers la terre promise. C'est ce que chante une hymne du carême. Je cite « Seigneur, quand ton peuple assoiffé criait sa souffrance à Moïse, tu ouvris pour lui le rocher et soudain jaillit l'eau qui donne la vie aux pèlerins de la terre promise. » Se souvenant de cela, l'Israélite est invité à avoir la même attitude, à donner de l'eau, ce bien précieux, à son frère, à son compatriote, à quiconque en a besoin et même à son ennemi. La parole de Dieu nous invite de ce fait à être particulièrement attentifs aux hommes et aux femmes qui sont éprouvés par la désertification dramatique de leur terre et à ceux qui, en trop de régions du monde, manquent de ce bien indispensable à la vie qu'est l'eau. De nos jours, le désert progresse et s'étend à des terres hier encore prospères et fertiles. Dans bien des cas, l'homme lui-même a été la cause de la stérilisation de terres devenues désertiques, tout comme de la pollution d'eau jusque la Seine. Quand on ne respecte pas les biens de la terre, quand on en abuse, on agit de manière injuste et même criminelle, car cela entraîne pour de nombreux frères et sœurs la misère et la mort. Des peuples entiers, des millions d'êtres humains, sont réduits à l'indigence et souffrent de la faim et de maladies parce qu'ils manquent d'eau potable. De fait, la faim et de nombreuses maladies sont intimement liées à la sécheresse et à la pollution des eaux. Là où les pluies sont rares et où les sources d'eau se tarissent, la vie devient plus fragile. Elle se raréfie au point de disparaître. D'immenses zones de l'Afrique connaissent ce fléau, mais on le rencontre aussi dans certaines régions d'Amérique latine et d'Australie. Parfois, la télévision nous en présente d'effrayantes images. Le développement industriel anarchique et l'emploi de technologies qui rompent l'équilibre naturel ont causé de graves dommages à l'environnement, provoquant de sérieuses catastrophes. Nous courons le risque de laisser un héritage aux générations à venir, le drame de la soif et du désert en de nombreuses parties du monde. Aussi, l'Église nous invite-t-elle à soutenir avec générosité les institutions, les organisations et les œuvres sociales qui s'emploient à aider les populations affligées par les pénuries ou par la soif et soumises aux difficultés d'une désertification croissante. Et pour certains, à collaborer avec les chercheurs qui s'efforcent d'analyser scientifiquement tous les facteurs de la désertification et de découvrir les moyens d'y remédier. Ce faisant, nous pourrons hâter l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante.
Thank you.
Pour les disciples de Jésus, donner à boire à celui qui a soif est donc un devoir plus exigeant que jamais. La soif torturante dans la gêne attend celui qui n'a pas vu l'affamé à sa porte. Une récompense est promise même à celui qui n'aura donné qu'un verre d'eau à l'un des disciples du Christ. À celui donc qui se sera engagé ou qui aura contribué modestement, selon ses moyens, son tempérament et sa grâce. La soif physique est aussi l'image, dans la Bible, de la soif spirituelle. On a soif de la sagesse qui désaltère. Jésus se préoccupe de susciter le désir de la parole de Dieu et d'en nourrir les foules. Acquisition de la sagesse au sens fort de ce terme, accueil de la parole sont le but de cette seconde œuvre de miséricorde spirituelle qu'est enseigner les ignorants. Certes, l'Église a toujours pris une grande part au long des siècles dans la culture et l'enseignement. On lui doit la sauvegarde des œuvres majeures de l'Antiquité, ainsi que le développement de la culture, des cultures et de certaines langues. En terre basque, par exemple, c'est elle qui a maintenu et favorisé la langue basque et qui a été le milieu qui a permis le développement d'œuvres littéraires et artistiques, ce dont on lui est reconnaissant. Il doit en être de même en Béarn et dans d'autres parties du diocèse pour la culture béarnaise et gasconne. Mais, comme le dirait l'Évangile, nous ne parlons que de ce que nous connaissons. Toutes les écoles, quel que soit leur niveau, sont l'objet du soin attentif de l'Église. C'est là que s'ouvre l'intelligence et que l'on peut recevoir une éducation efficace. L'idéal pour l'Église, dans la perspective d'un humanisme intégral, c'est que les adolescents et les jeunes n'acquièrent pas seulement une culture et une formation humaine, mais qu'ils s'imprègnent de l'esprit de l'Évangile. La liturgie demande en effet que l'école, vouée au progrès de la connaissance des sciences et des lettres, soit un lieu où les maîtres, comme les élèves, s'instruiront de la parole de vérité du Seigneur et s'appliqueront à faire de la foi chrétienne la règle de leur vie en se mettant de tout cœur à l'école du seul maître, le Christ. Les écoles techniques et professionnelles ont été aussi développées par des chrétiens. Que l'on pense par exemple à l'œuvre des apprentis d'Auteuil du père Brottier. Par leur travail et leur génie, aidés par la science et la technique, les hommes étendent leur maîtrise sur la nature. Ils se procurent de nombreux biens, améliorent leurs conditions de vie et celles des autres. Ils peuvent se reconnaître unis dans le travail et au coude à coude pour le même service en vue d'améliorer la société. La parole de Dieu fait l'éloge du sage qui présente à ceux qu'il rencontre la richesse de l'expérience en y assimilant le contenu de la parole de Dieu. Il s'agit pour lui de transmettre la vraie sagesse, la connaissance et la crainte du Seigneur, bref, le savoir religieux qui est la condition d'une vie épanouie au sens fort de ce terme. Le Nouveau Testament invite les hommes à accueillir le message du Christ. Pour cela, il faut des témoins animés par le Saint-Esprit. C'est ce que note le bienheureux pape Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi. L'annonce de l'Évangile. Je le cite. L'Évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici qu'un autre, ils rayonnent d'une façon toute simple et spontanée leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans parole, ces chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de la sorte? Qu'est-ce ou qui est-ce qui les inspire? Pourquoi sont-ils au milieu de nous? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Il y a là un geste initial d'évangélisation. Les questions que voilà seront peut-être les premières que se poseront beaucoup de non-chrétiens, qu'ils soient déjà à qui le Christ n'avait jamais été annoncé, des baptisés non pratiquants, des gens qui vivent en chrétienté, mais selon des principes nullement chrétiens, ou des gens qui cherchent, non sans souffrance, quelque chose ou quelqu'un qu'ils devinent sans pouvoir le nommer. D'autres questions surgiront, plus profondes et plus engageantes, provoquées par ce témoignage qui comporte présence, participation, solidarité, et qui est un élément essentiel, généralement le tout premier, dans l'évangélisation. À ce témoignage, tous les chrétiens sont appelés et peuvent être, sous cet aspect, de véritables évangélisateurs. Nous pensons spécialement à la responsabilité qui revient aux migrants dans les pays qui les reçoivent. Et cependant, cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, ce que Pierre appelait « donner les raisons de son espérance », explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés.
Les œuvres de miséricorde, une émission proposée par l'abbé Philippe Beitia, prêtre du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.